Les As de la CoPro, les questions CoPro.
Bonjour Gilles, bonjour à toute l'équipe. Je suis copropriétaire à Dijon. J'ai demandé au syndic de m'envoyer la liste des copropriétaires avec leurs coordonnées postales, téléphone et mail. Il m'a répondu qu'il n'avait pas le droit de le faire à cause du RGPD. Je voulais savoir s'il avait raison. Voilà, merci pour votre réponse.
Alors cette question revient souvent. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a un syndic qui s'était fait condamner parce qu'il n'avait pas voulu donner la liste des copropriétaires. On ne parle pas de la feuille de présence là. Hein. On parle de la liste des copropriétaires et là où c'est important de le relever, avec les téléphones et les mails. Alexis, je suis syndic. Est-ce que je dois communiquer cette liste à un copropriétaire qui m'en fait la main ou même au conseil syndical?
Alors déjà sur la feuille de présence déjà de ce que nous disent aujourd'hui les articles du décret, la feuille de présence, puisque effectivement il peut y avoir des façons de faire entre le texte et puis la pratique, la feuille de présence elle comporte que le nom et le domicile des copropriétaires.
Son lot et les millièmes.
Uniquement le nom et le domicile des copropriétaires. Donc en tant que tel, ça constitue une annexe du procès-verbal et comme tout document, ce sont des documents qui appartiennent au syndicat des copropriétaires. Ça fait partie des archives du syndicat. Et donc, à ce titre-là, le syndic est tenu de délivrer les documents, donc notamment, on parlera des autres documents après, mais copie de la feuille de présence et même des pouvoirs au copropriétaire qui en ferait la demande. Donc on ne peut pas se réfugier derrière une sorte de motif qui ferait qu'effectivement, pour des questions de vie privée, parce qu'il y a mention d'une adresse postale, on se réfugie derrière.
On ne peut même pas rayer.
Il y a des décisions de jurisprudence. On peut pas biffer les adresses. C'est une obligation de délivrer à tout copropriétaire des copies des procès-verbaux et des annexes, des assemblées
générales. Mail et téléphone.
Alors là, sur le mail et le téléphone, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question parce que il n'y a pas de document obligatoire
On dit que le syndic tient la liste des copropriétaires.
Tient la liste des copropriétaires.
Mais on ne parle pas de la feuille.
Mais il y a la liste des copropriétaires. Il n'y a pas le détail des éléments qui doivent être. Qui devait être inscrit sur cette liste, puisqu'effectivement, donc là, ça peut poser question. Alors, ça dépend effectivement à chaque fois
les mails et les téléphones. Surtout avec la LRE, là, on a tous les mails.
On a tous les éléments, mais c'est vrai qu'au titre de la liste, on peut pas considérer. Est-ce qu'on considère que ça fait partie des documents Alors, c'est pas une annexe, ce sont pas des annexes du procès verbal, la liste, ça n'est que la feuille de présence. Quand on voit qu'effectivement les copropriétaires appartiennent à un syndicat des copropriétaires, c'est l'ensemble des copropriétaires qui sont concernés. On peut se poser la question sur les mails et les téléphones. Là, il y a vraiment ce sujet-là, puisqu'on a parfois des téléphones où les gens ne souhaitent absolument pas être dérangés. Hein. Avant, on avait la liste rouge. Bon, ça n'existe plus vraiment, on est tous sur des portables. Mais on peut se poser la question du mail et du téléphone. Parce que la liste, en général, c'est un peu comme la feuille de présence. Les listes, alors, informatiquement, on peut tout faire. Hein. On peut avoir des listes avec uniquement les noms, les tantièmes, les lots. On peut avoir des listes beaucoup plus complète avec l'ensemble des coordonnées quand on les a, parce qu'on les a pas toutes.
Et c'est vrai que la question se pose notamment pour la LRE et la convention, la convocation faite par le président du conseil syndical au titre de l'article 8 du décret, après mise en demeure. C'est le président du conseil syndical qui va convoquer lui-même. S'il convoque en LRE, il lui faut bien les adresses
mail. Il faut les adresses mail.
Alors c'est vrai qu'en pratique, alors moi perso, parce que c'est vrai qu'ici on fait du droit, on fait aussi de la pratique. Généralement, la liste des copropriétaires avec les mails et les adresses, je la donne au conseil syndical. Et encore, ça dépend pourquoi. Mais à un copropriétaire lambda, je ne vais pas lui donner. Est-ce que je suis dans mon droit ou pas? Telle est la question.
Oui, il n'y a pas encore de tranchée, mais c'est qu'on voit que de plus en plus, de toute façon, on ne peut pas non plus se réfugier derrière le RGPD ou entre guillemets, les motifs de vie privée. C'est-à-dire qu'on considère que ça fait partie des documents du syndicat des copropriétaires, hein, puisque finalement, le copropriétaire à titre individuel se dilue dans le syndicat des copropriétaires et qu'à ce titre-là, ça fait partie des archives du syndicat. Donc, on serait obligé de transmettre...
C'est vrai qu'on pourrait leur demander aussi, OK, je vous donne la liste, mais pourquoi vous, pourquoi enfin, je pose la question, parce que si c'est pour aller harceler vos voisins... C'est pas la peine. Oui. Si c'est pour les consulter ou les sonder sur une question de travaux privés avant de mettre à l'ordre du jour, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on jongle sur cette question. Et je vous remercie, Alexis. Et je vous propose qu'on passe à la deuxième question du copropriétaire.
Bonjour, j'habite dans un petit immeuble à Saint-Étienne. Et donc, on va changer de société de ménage très prochainement parce que le boulot n'est pas très bien fait. Et la nouvelle société de ménage nous a dit qu'elle était obligée de reprendre l'ancien employé. C'est justement à cause de lui qu'on n'est pas très satisfait. Donc, je voulais savoir déjà c'est quoi cette règle. Et puis ensuite, s'il existe une solution pour éviter ça, parce qu'on aimerait tout simplement ne pas continuer avec la même personne.
Ouais, alors, Sabrina, c'est la fameuse annexe 7.
Alors, c'est la fameuse annexe 7. Alors, on sait que tout gestionnaire de copropriété a un jour été confronté à cette demande d'un syndicat de copropriétaires qui est insatisfait de son entreprise de ménage. La question, c'est comment est-ce que, effectivement, cette annexe 7, enfin, déjà, ce que c'est, et puis après, comment est-ce qu'elle est mise en application. Alors, l'annexe 7, appelée depuis article 7, elle est issue de la Convention collective nationale des sociétés et entreprises de propreté. Elle avait pour objectif, notamment dans son premier article, de permettre le maintien de l'emploi, notamment de ces salariés en précarité souvent, donc qui ont des petits emplois dans plusieurs structures. C'était l'idée donc initiale. Et donc prévoit dans son texte la continuité en fait des services du salarié dans le cas où il y a des changements commerciaux. C'est-à-dire, je suis syndic de copropriété et comme ce monsieur nous le demande, il est insatisfait des services de la société de ménage. On décide collégialement d'en changer, le cas échéant, le salarié ne doit pas être pénalisé. Et donc l'entreprise qui va reprendre le salarié devra reprendre le salarié de l'entreprise voisine.
Le réembauche. Donc
alors,
on change de prestataire, mais on a toujours le même agent.
Alors voilà, ça va peut-être...
Il est là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut faire ?
On a effectivement cette difficulté. Donc on a compris que c'était pour le maintien de l'emploi et que finalement nos échanges commerciaux ne doivent pas impacter les emplois de ces salariés. Néanmoins, derrière, on récupère le salarié sous certaines conditions. Tout de même, ça a quand même été encadré par la convention collective. Il faut qu'il représente au moins 30% de son activité pour ce site en question.
Sur ce site-là.
Il faut qu'il soit salarié depuis plus de 6 mois. Et enfin, il ne faut pas qu'il soit arrêté depuis plus de 4 mois en arrêt maladie depuis plus de 4 mois.
Donc un tiers de son temps de travail sur la même copro. Donc on parle plutôt peut-être des grosses copro ou moyennes copro.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. 30% du temps de travail, ça représente, on va dire, entre 10-12 heures de travail par semaine sur un immeuble. Donc on peut considérer qu'on est sur une copropriété assez importante. Alors comment est-ce qu'on répond à la deuxième question, à savoir, parce que du coup, il faut effectivement répondre à l'insatisfaction, si c'est réellement le salarié qui pose problème. La solution, je dirais, la plus simple et rapide, c'est de demander, alors soit à la société finalement qui est concernée directement, s'il est possible de changer de salarié, en tout cas pour cette activité. Alors bien sûr, il faut avoir des motifs sérieux. Le travail n'est pas exécuté, il y a une inadaptabilité de son poste par rapport au poste de travail. Il y a une mésentente, tout simplement. Ça peut être des sujets qui peuvent être portés à l'entreprise.
Donc on demande à l'entreprise de l'affecter ailleurs.
Exactement. Soit l'entreprise actuelle, soit l'entreprise entrante, parce que ça peut être aussi dans ce cas de figure. S'il n'y a pas cette possibilité, effectivement, on peut se retrouver avec un souci majeur au sein de la copropriété. Dans ces cas-là, il peut y avoir des solutions, effectivement, qui sont peut-être un peu plus rudes, mais c'est peut-être résilier et trouver une autre solution pour l'entretien ménager de l'immeuble et ne plus avoir recours à une société de prestation de services telle qu'une entreprise de ménage.
Alors, effectivement, les sociétés de ménage disent, et certainement à raison, que l'agent sera managé autrement. Donc, peut-être ça va mieux se passer. Mais des fois, c'est effectivement, comme vous le dites, un problème d'entente.
Exactement.
Et là, manager autrement ou pas, faut trouver une solution. Alors, effectivement, certains syndics, pour contourner, on va dire, cet annexe 7, cet article 7, vont dire, nous, on va faire le ménage nous-mêmes à partir de maintenant. Donc, la règle ne peut pas s'appliquer puisque le syndicat n'est pas employeur. Il n'y aura pas de prestataire, en fait.
Oui.
Et ça va durer peut-être quelques mois. Mais bon, on est très, très border si on fait ça.
Oui, c'est effectivement, c'est un peu limite. Alors, il y a ces solutions, les solutions d'employés mais on peut, directement.
Mais cela dit, on a tout à fait le droit, les copropriétaires ont tout à fait le droit de faire le ménage eux-mêmes. Hein.
Alors, ils ont le droit de faire le ménage eux-mêmes.
S'organiser avec un petit planning.
Dans le cadre, effectivement, de tâches simples, si je peux me permettre, de tâches simples, s'il y a des outils à prendre ou autre, là, ça devient aussi un risque pour le syndicat des copropriétaires. Mais il y a des solutions. Mais je pense que la première solution, enfin, pour l'avoir déjà vécu, et je pense comme beaucoup d'entre nous ou dans le métier, c'est effectivement de pouvoir trouver une solution directement avec ce salarié. C'est des choses qu'il réalise. Et sachant que l'entreprise entrante, ça peut être aussi un point de discussion. Vous reprenez un contrat, est-ce que vous êtes en mesure de reclasser ce salarié sur un autre site ? Vous l'êtes, vous ne l'êtes pas, et dans ces cas-là, on prend des décisions.
Donc c'est effectivement quelque chose que le syndic, que le gestionnaire copropriété doit anticiper.
Exactement.
Effectivement. Alors ça, en plus, on a la gestion des gardiens et tout le social. Oui. Henri, vous avez, j'imagine, parlé aussi, pour finir cette émission, du rôle social, sociétal du syndic. Et ça, comment le rémunérer, comment le quantifier
Oui, soit dit en passant, le rôle social donne un sens à ce métier-là. Et au moment de parler d'attractivité, moi je note qu'une proportion croissante des diplômés niveau bac plus 5, mettons-nous à ce niveau-là. Alors croissante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vient de très bas. C'était entre 3 et 5% il y a quelques 5 ans qui allaient vers le métier de la copropriété. On est à 12,5% sur les trois dernières cohortes. Chiffre IMSI, mais je pense que mes confrères, les autres écoles le partagent. Et ça tient à ce rôle social et à ce sens. Voilà. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Et je trouve que la profession, je monte personne du doigt, collectivement, la profession, elle parle pas bien de ce métier, de son métier. Et elle donne pas envie. L'histoire de la surélévation, moi je voudrais dire que c'est enthousiasmant. On a là un acte c'est la politique publique, la densification, c'est un moyen de financer la transition environnementale, ça a été dit bien sûr, de faire rentrer beaucoup d'argent dans une copropriété qui en manque, et puis de transfigurer l'immeuble, la ville, c'est un métier qui aujourd'hui est à ce niveau-là et qui est un métier de valorisation du patrimoine collectif et de stabilisation du corps social à l'échelon micro. C'est une micro-démocratie. Je ne sache pas beaucoup de métiers qui aient des enjeux plus lourds que ça. Il n'y en a pas, voilà.
La polyvalence, la richesse du métier, syndic, l'homme clé et l'homme orchestre.
Ou la femme.
Ou la femme, bien sûr. Et métier d'ailleurs très qui se féminise beaucoup. Après, presque 70% des gestionnaires sont des femmes dans les enquêtes, notamment NGC, qu'on fait régulièrement. Je vous remercie à tous. Merci Alexis.
Merci Jean.
De Coster pour votre analyse. Merci également Sabrina.
Merci beaucoup.
Pour cette analyse, ce témoignage. Merci encore Henri Buzy-Cazot. Je vous souhaite à tous un bel été et on se retrouve à la rentrée. Bye bye, ciao.
Les As de la Copro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.